MCI TV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous pour une nouvelle semaine à passer tous ensemble. Alors aujourd'hui, on commence avec un gros sujet. Peut-on perdre son salut?
Wow.
Grande question. Et si vous nous suivez, c'est certainement que vous êtes intéressé par ce sujet. Peut-être vous vous le posez pour vous-même ou juste vous êtes curieux de savoir la réponse. Et on va tenter de vous donner une réponse biblique. Si possible, c'est mieux. Et aujourd'hui, je suis en très bonne compagnie. J'ai Frank avec moi, mais j'ai aussi un invité qui sera avec nous cette semaine, le pasteur Yvan Carluère de l'église MLK à Paris. Salut Yvan!
Hello Yvan!
Content d'être avec vous.
Ça va?
Très bien.
Un plaisir de t'avoir avec nous. Ouais. Ça va être une belle semaine qu'on va passer tous ensemble.
On va parler vrai, ça va être bien.
Comme t'aimes bien, comme t'aimes bien.
Et on commence sur la perte du salut, c'est pas n'importe quoi.
Ah, t'es sûr, t'as choisi un sujet.
Ah oui,
c'est important.
Mais c'est un sujet super important, effectivement.
Intéressant.
Vraiment, alors c'est ça. Tu es le pasteur de l'église MLK à Paris. C'est une église que je pense beaucoup connaissent, diffusée d'ailleurs sur MCI. Au cas où les gens nous suivent plutôt de l'Afrique, ils ont certainement eu l'occasion de voir, de suivre tes prédications. Et puis, c'est une très, très belle assemblée qui porte beaucoup de fruits, à la fois localement, mais à la fois aussi sur Internet. Et vraiment, on vous encourage à pouvoir suivre tes messages, parce que c'est vrai qu'il y a cette onction sur ta vie où tu abordes des sujets que d'autres peut-être n'osent pas aborder. C'est vrai? C'est vrai? Et je trouve que t'es courageux. T'es très courageux. Donc, voilà.
Alléluia.
Bah, aujourd'hui, d'ailleurs, on commence la semaine avec un sujet qui... C'est des sujets délicats que certains ne veulent parfois pas aborder. Et ben, on le fait aujourd'hui. Et d'ailleurs, tu vas être notre expert aujourd'hui parce que tu aimes beaucoup être appelé expert.
Pas du grand expert.
Pas du tout.
Grand expert.
J'ai envie de t'appeler expert pendant toute l'émission. En antenne, il me disait qu'il aimait pas le nom.
Ceux qui me connaissent, j'aime pas les titres. C'est pour ça qu'elle est déjà en train d'essayer de m'embêter.
L'expert de Créteil.
Si je l'appelle le pasteur expert Yvan, ça va être encore mieux.
Non.
J'ajoute père spirituel et deux, trois autres. Et là, tu me perds complètement.
Et donc,
ça va être une belle semaine.
Ne soyez pas offusqués si je l'appelle par son prénom, c'est Yvan. Sa demande, Yvan, effectivement. Et aujourd'hui, justement, tu vas nous parler, en fait, est-ce qu'on perd notre salut lorsqu'on a péché?
Oui.
C'est bien ça.
Et je pense qu'on a tous soit des craintes pour nous-mêmes, soit des craintes pour quelqu'un que l'on aime ou qu'on a aimé.
Mm.
Par exemple, il s'appelle Marc, il sort d'un rendez-vous chez sa maîtresse alors qu'il est chrétien. Mm. Il a un accident sur la route, il est minuit, il rentre dans un arbre.
Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe?
Mm-hmm.
Qu'est-ce qui se passe? Il s'appelle, je ne sais pas moi, Lucas. Il fait des jeux vidéo, il est addict à la porno. Il voudrait changer. Il se demande, est-ce qu'il est vraiment sauvé? Est-ce qu'il peut prendre la Sainte-Seine dimanche prochain? Est-ce qu'il peut prendre la communion s'il va à la messe? Mm-hmm. Il se dit, est-ce que c'est foutu pour moi? Est-ce que je m'en sortirai jamais? Donc... je suis inéligible au salut.
Mm-mm.
Voilà, c'est des vraies questions.
Des vraies questions que peut-être vous vous posez. Et vous avez vu, quand je vous dis qu'il aime les sujets sensibles, c'est le cas. Mais surtout, on va l'aborder, c'est ça, en toute transparence. Mais aussi, on va voir ce que la Bible dit, parce que la Bible parle de ces sujets-là. Et des fois, on ne comprend pas forcément ce qui est dit, mais les choses pourtant sont très, très clairement expliquées. Donc, c'est un sujet super important, mais qu'on arrive à aborder avec humour, parce qu'on est comme ça à Bonjour chez vous. Mais j'aimerais vraiment vous encourager à la maison à avoir le cœur ouvert. Je le dis souvent dans les émissions, mais c'est hyper important, surtout dans des sujets comme ceux-là. On peut faire tomber des fois peut-être les préjugés, les a priori, et juste se dire, Seigneur, j'ouvre mon cœur à ce que tu vas vouloir me dire aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez cette démarche aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que je vous encourage à faire. Et on va commencer tout de suite avec toi, Frank, dans la pensée du jour.
Et est-ce qu'on peut perdre notre salut? C'est une grande question, mais justement, avant d'aborder ce sujet, qu'est-ce que c'est le salut?
Mm-hmm.
Parce que vous regardez peut-être et vous avez entendu le terme, le salut, est-ce que je suis sauvé? Qu'est-ce que c'est être sauvé? Qu'est-ce que c'est le salut? Et est-ce que je peux être sûr d'être sauvé ou d'avoir le salut? Il y a quelque chose d'intéressant, parce que premièrement, je vais aborder avec vous juste la perspective, le thème, le salut, ou être sauvé, comme on peut le dire dans les milieux évangéliques. Qu'est-ce que ça veut dire véritablement? Jésus en a parlé dans Jean chapitre 3. Et ça, c'est un passage qui est très, très connu. Jean 3, verset 16. car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, etc. Mais avant ce passage qui est tellement connu, qui est la démonstration du cœur de Dieu, vraiment, l'amour de l'humanité qu'il a eu, il parle avec un homme du nom de Nicodème. Et il parle à cet homme qui est un homme religieux et lui explique qu'est-ce que c'est justement d'être sauvé, comme on peut le dire aujourd'hui. Et il parle de la nouvelle naissance. Et encore là, il y en a qui vont dire, mais la nouvelle naissance, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, aujourd'hui, la nouvelle naissance, je veux te l'expliquer. En tout cas, je vais essayer de l'expliquer au plus simple possible. C'est de commencer une vie nouvelle, spirituellement parlant, avec Dieu. C'est-à-dire que tous, la Bible dit, on a péché. On a désobéi, on a brisé les commandements de Dieu. On a péché, on a été séparés d'avec Dieu à cause de nos péchés. Mais lorsqu'une personne reconnaît ça et qui demande pardon, qui vient vraiment avec un cœur, qui cherche à être repentant, qui cherche vraiment à dire, Dieu, je reconnais aujourd'hui, j'ai péché, j'ai été séparé d'avec toi, mais aujourd'hui, je veux te demander pardon, je veux faire la paix avec toi. Il se passe quelque chose d'extraordinaire, de phénoménal. La personne vit ce que Jésus a décrit à Nicodème. La personne vit la nouvelle naissance. Et qu'est-ce que c'est dans les grandes lignes? C'est qu'en un instant, en une fraction d'une seconde, d'une manière instantanée, immédiate, lorsqu'une personne fait la paix avec Dieu véritablement d'un cœur sincère, le Saint-Esprit vient habiter l'esprit d'une personne, de cette personne plus particulièrement qui a fait la paix avec Dieu. Mm-hmm. On devient le temple du Saint-Esprit. Dieu lui-même habite en toi, habite en moi. Ça, c'est la pensée la plus... C'est tellement énorme, c'est gigantesque. Dieu habite en toi, il habite en moi lorsqu'on fait la paix avec lui, qu'on vit, en effet, ce qu'on peut appeler aujourd'hui le salut, le secours de Dieu, alors qu'on était en danger, on était séparés d'avec lui. On devient un enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu, on est transféré, comme la Bible dit, dans son royaume. Et là, maintenant, comment est-ce que je peux être sûr d'avoir vécu cette chose, la nouvelle naissance? D'avoir vécu le fait d'être sauvé. Comment est-ce que... L'apôtre Paul en parle. Et il y a un passage qui est extraordinaire dans Romains, chapitre 8 et le verset 16. Là, on ne peut pas tout lire Romains 8, mais c'est un passage extraordinaire à lire. Mais je prends juste le verset 16 qui nous dit l'Esprit, en parlant de l'Esprit de Dieu, l'Esprit avec un grand E, E majuscule. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, avec un petit E, que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu en nous, en toi, rend témoignage à ton esprit que nous sommes enfants de Dieu. Là, c'est compliqué à expliquer parce que c'est pas scientifique, c'est spirituel. C'est extraordinaire. Tu sais que tu as vécu quelque chose de nouveau. Tu sais que maintenant, il y a des désirs nouveaux qui sont là en toi et qui n'étaient pas là auparavant parce que c'est la nature de Dieu qui est en toi. Ça s'appelle marcher par l'Esprit. L'amour qui, avant, n'était pas là, soudainement, tu as envie d'aimer les gens comme avant, tu n'avais pas envie d'aimer. Le pardon, tu veux relâcher le pardon parce qu'avant, tu étais rempli d'amertume, tu ne voulais pas pardonner ceux qui te faisaient du mal. Au contraire, tu les maudissais, tu étais dur vis-à-vis d'eux. Mais là, il y a comme une nature nouvelle en toi qui se manifeste et qui fait, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'étais pas comme ça hier. Je suis allé à cette réunion, j'ai parlé avec mon ami dans la maison, j'ai fait cette prière et là, ce matin, je me réveille, j'ai quelque chose qui se... Ça, c'est l'Esprit de Dieu en toi. Et on ne peut pas l'expliquer par des mots, mais on sait qu'on sait que l'Esprit de Dieu habite dans une personne alors qu'on voit le fruit être manifesté. Jésus, je termine par là, Jésus a dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Lorsqu'une personne naît de nouveau, il y a des changements qui vont avoir lieu dans la vie de cette personne-là. Ce n'est pas tout automatique. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un moment où est-ce que tu vas chuter. Ça ne veut pas dire que tout va être parfait et que maintenant, même ton apparence physique change. Non, 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 pas du tout. Mais soudainement, tu as la nature de Dieu, tu as le Saint-Esprit qui habite en toi, qui te pousse à agir différemment, à parler différemment, à agir avec les autres différemment. Et là, les choses changent. Maintenant, ça ne veut pas dire, comme j'ai dit, que tout va être parfait. Et c'est de ça qu'on va parler dans l'émission. Est-ce qu'on peut perdre ce salut? Comment est-ce que ça se passe quand je suis pris avec un péché dans ma vie? C'est compliqué, etc. Est-ce que ça fait que vis-à-vis de Dieu, je meurs? Qu'est-ce qui se passe? Mais on en parle tout de suite. Et le salut, on peut avoir l'assurance d'être sauvé parce que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. Mmh. Et ça, c'est une bénédiction extraordinaire.
Amen. Merci, Frank. Et avant d'entrer dans le vif du sujet avec toi, Yvan, j'aimerais qu'on regarde un verset du jour dans 2 Timothée 4, versets 7 et 8. Et j'aime à quel point Paul a cette assurance du salut. On le voit clairement dans ce verset. Paul va dire « J'ai combattu le bon combat ». J'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, Le Seigneur, le juste juge, yes, me la remettra ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. En fait, on voit effectivement, comme tu l'as dit, Frank, qu'on peut avoir cette assurance d'être sauvé. Et c'est fort. Et moi, je me souviens, pendant longtemps, je me disais, mais on pourrait pas juste avoir un rond vert qui s'allume sur le front quand on est sauvé, rouge si on n'est pas sauvé. Je sais pas, c'est clair, au moins, il n'y a pas de malentendu. Mais en fait, on a quelque chose d'encore plus extraordinaire à l'intérieur de nous, comme tu l'as dit, l'Esprit de Dieu qui témoigne à l'intérieur de nous et qui nous donne cette assurance d'être sauvé. Pour autant qu'on soit bien honnête avec nous-mêmes aussi. Et il y a des choses que, en fait, on sait. Et les autres à l'extérieur, peut-être, ne le voient pas, ne peuvent pas le savoir. Mais à l'intérieur de nous, on le sait. Maintenant, on le sait, on reconnaît un arbre à six fruits, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas à nous de venir juger et de venir dire telle personne est sauvée, elle n'est pas sauvée. En fait, le salut, c'est personnel. Oui. C'est mon problème à moi avec Dieu. Et c'est à l'intérieur de moi que les choses se passent et que j'ai cette conviction. Et Yvan, je te propose, parce que tu voulais qu'on puisse entrer vite dans le vif du sujet, qu'on ait eu le temps de discuter tout à l'heure. Donc, je te propose, c'est OK pour toi? Oui. Qu'on aille tout de suite sur la rubrique réponse d'expert?
Ça marche.
OK, excellent. Alors, on y va.
Alors, je vais vous dire vraiment pourquoi, moi, je me suis posé la question. C'était un petit peu plus compliqué. Quand j'étais ado, j'ai une maman qui est une femme de Dieu incroyable. OK. C'est-à-dire qu'elle avait fait une rencontre avec Dieu. C'est une sainte. Maintenant, elle avait été abîmée psychologiquement, elle avait été abîmée aussi spirituellement par des messages et des attitudes pastorales dysfonctionnelles. Et ça peut arriver dans l'Église catholique, ça peut arriver dans les églises évangéliques, ça peut exister partout. Et elle avait entendu tellement de pasteurs qui avaient prêché des messages sur la fragilité, le péché, la fragilité, etc., qu'elle-même, elle vivait... Elle n'était pas si sûre que ça de son salut, d'accord? Donc, et c'est une sainte femme. Je suis en train de parler de quelqu'un, et je sais, c'est peut-être une minorité, mais si je parle à une personne, et c'est à toi que je parle, je suis heureux aujourd'hui. Il y a peut-être quelqu'un qui ressemble à ma maman, et ça peut être un homme qui se dit, j'entends Franck que tu dis, l'esprit témoigne à mon esprit, mais mon esprit est tellement perdu. Mon corps est perdu, mon âme est abîmée, il y a un bruit sur la ligne, je ne suis pas sûr. Ouais. Voilà, c'est ça que je veux
tout
voir.
Tout à fait.
Alors, repartons à la base. Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit, voici, tu parles des fruits. Donc, je prolonge ce que tu dis. Il y a des fruits qui sont dans... Tu dis ça dans Galates. Galates 5, tu vois, les fruits de l'esprit. Effectivement, il y a la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, et tu as très bien parlé. Et puis, il y a les œuvres du péché. Les œuvres du péché, je vous les lis. Alors, il y a l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les divisions, les jalousies, les colères, les rivalités, les sectes. Alors, on peut dire aussi le fait de choisir des partis et de dire « toi, t'es bon, toi, t'es... » C'est très marrant. L'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Donc, tu dis « ah !» Je suis pris dans quelque chose, là. Et du coup, ma question est, une fois que quelqu'un a été sauvé, une fois, il a peut-être eu toute une partie de sa vie où tout était clair dans sa tête. Puis, à un moment, il est en train de pratiquer plus ou moins régulièrement une œuvre qui est incompatible avec sa nature de né de nouveau.
Parce que ça dit justement qu'ils n'hériteront pas.
Mais attends, du coup, je ne te pose pas forcément la question à vous, mais je parle à la personne, c'est quand la dernière fois que tu as menti? C'est quand la dernière fois que, même si tu es chrétienne, mais si tu es chrétien, tu étais jaloux ou jalouse des vues de l'Instagram de l'autre, etc. Ben, t'es un péché, là. Il y a trois types de péchés. Il y a les péchés qui sont dans le corps. Donc, on voit tous les péchés de sexualité, toute addiction, etc. On en parle beaucoup dans les églises, ils sont très voyants. Le corps, c'est externe. Donc, on fait du bruit et voilà. Mais dans la liste, les deux tiers des péchés, ce sont des péchés de l'âme.
Tout à fait.
L'âme, ça fait pas de bruit. La haine. Elle est très silencieuse, la haine. Une fois qu'elle se matérialise, elle sort, mais elle peut rester cachée à l'intérieur. Les colères, les querelles, quelqu'un qui est tout le temps en train...
L'envie.
Aujourd'hui, c'est terrible.
C'est terrible. Voilà, d'accord. Or, c'est des péchés silencieux. Donc, quelqu'un qui est très, très conscient, j'ai envie de dire, c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est plus tu as le Saint-Esprit, plus le Saint-Esprit va te dire ce que je tolérais au début de ta conversion, c'était OK, mais là, maintenant, t'as vieilli. Donc, plus on grandit avec Dieu, plus on devient sensible. Du coup, ça peut avoir tendance à fragiliser notre conscience du salut. Donc, du coup, pour moi, il y a un texte, et c'est juste ce que je voudrais vous dire. Hébreux 10, il dit « En effet, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, Hébreux 10, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement. » Et là, il y a des chrétiens qui se disent « Est-ce que je suis dans ce cas-là » Parce que pécher volontairement, délibérément, ça va jusqu'à où? Parce que parfois, le Saint-Esprit te dit « Fais pas ». Et tu te dis « C'est la dernière fois, Seigneur. » Mais je crois que je vais quand même le faire. Et là, c'est compliqué. Parce que c'est comme une alarme, il y a le buzzer du Saint-Esprit. Bip, 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 bip. Et c'est là où je me dis, est-ce que le point passe au vert? Au rouge? Au vert? Au rouge? Au vert?
Au orange?
Sur orange? Alors, pour quelqu'un qui se pose la question, Jacques. Ce livre de Jacques, il y a un passage qui est extraordinaire. OK. Il dit, Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Lorsque nous sommes tentés, écoutez bien, les mauvais désirs que nous portons en nous nous attirent et nous agrippent.
Ouais.
Même les chrétiens. Bien sûr. Même les chrétiens. C'est-à-dire qu'un chrétien aura des mauvaises pensées, ouais, aura des mauvais désirs. Donc oui, la jalousie va arriver et ce n'est pas encore un péché. On est au stade 1. C'est un petit peu comme certaines maladies, il y a stade 1, stade 2, stade 3 et c'est de plus en plus compliqué pour revenir, d'accord ?
Là, tu parles de tentation,
si je résume. On est au niveau du désir. Les tentations, c'est très lié aux tentations du corps.
Oui.
Et donc, c'est pour ça que je dis désir, parce que je veux vraiment faire comprendre à tout le monde qu'il n'y a pas que des péchés sexuels visibles,
bien sûr,
d'accord ? Il y a aussi plein de péchés invisibles dans lesquels le mot désir, un mauvais regard... Je disais ça quelque chose hier à Nouvelle Vie, je disais ceci. Les hommes, ils ont souvent été très culpabilisés par le verset « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. » Tu as tous les hommes, ils se disent « Purée, je disais ça, je suis aveugle, quoi, je suis borgne au minimum. » C'est un massacre des yeux, tu vois. Parce que le nombre d'hommes qui ont eu un problème avec la pornographie ou un problème avec la femme du voisin, c'est terrible. Voilà, il n'y a plus que des borgnes dans nos églises, des aveugles. Et là, tu as plein de femmes qui n'ont aucun problème avec ça, qui disent « Alléluia, merci Seigneur, j'ai mes deux yeux. » Mais j'ai envie de toi, ma chérie, la façon dont tu as regardé la colère, la façon dont tu as jalousé ta sœur, la Bible dit, et c'est Jésus qui dit ça dans la parabole aussi, il dit, pourquoi vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ben, je veux dire, là, c'est un peu plus compliqué. C'est un mauvais désir. Voilà. Tu es en stade 1. Nous attire et nous agrippe. C'est-à-dire que tu parlais, Franck, de l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous. Ouais. Donc, il y a un moment, notre corps, notre âme sont perméables. Ce n'est pas encore un péché, mais ça va taper l'esprit à l'intérieur. Et on est en zone de mauvais désir, phase 1, et ça va essayer d'agripper la partie spirituelle en toi. Tu as la possibilité de dire oui, tu as la possibilité de dire non. Mais lorsque on dit oui, ça fait un bébé. Entre le mauvais désir et mon esprit, si j'ouvre la porte, ça fait un bébé. Et je passe en phase 2. Écoute bien la suite du verset. Puis, par notre union avec lui, avec le péché, notre union, mon esprit, a accepté.
Tout à fait.
Le mauvais désir donne naissance au péché. Je suis en phase 2, je suis en phase de péché. Ah bah alors là, c'est foutu. Non, c'est pas encore foutu.
Alléluia.
Parce que tu es en phase 2, tu es oui, ma sœur, mon frère, toi qui regardes cette vidéo, le Saint-Esprit est en souffrance de ce que tu es permis, que ce mauvais désir qui n'était pas un péché, tu l'as accepté dans ta vie, il est passé en phase 2, il est devenu un péché. Et à partir de ce moment-là, tu vas entendre une double alarme du Saint-Esprit. Déjà en phase 1, tu avais une première alarme, tu as une double alarme du Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit te dit, non seulement, en phase 1, il te dit, ne fais pas. En phase 2, il dit, tu me fais mal. Tu me fais souffrir.
Arrête.
Arrête parce que ce n'est pas qui tu es. Tu es une fille du roi des rois, tu es un fils de Dieu. Yes. Tu as un ADN divin, tu es en train de me donner un ADN qui n'est pas de chez moi, là.
Tout à fait.
Attention, verset suivant, enfin, il dit, le mauvais désir donne naissance au péché. Enfin, stade 3, une fois parvenu à son plein développement, le péché entraînera la mort. Phase 3. Et c'est là où tu es toujours en vert, mais tu es en vert clignotant. Et la phase 3, tu es en rouge. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, à force de flirter avec le péché, y compris un péché de l'âme,
un péché spirituel, parce qu'il y a aussi des péchés spirituels, la magie, l'idolâtrie, ouais, etc. Tu as mélangé un peu la coutume de tes ancêtres, tu en fais quelques bêtes, tu as gardé des grilles, etc. Le Saint-Esprit dit, tu me fais un bébé dans le dos, là. Ce bébé s'appelle le péché, à l'intérieur. Attention, je te laisse un temps qui s'appelle le temps de repentance, la grâce de Dieu, après quoi, une fois que ça sera devenu à son plein développement, le péché va prendre tellement de place dans ton esprit que le Saint-Esprit, c'est... Il est extrêmement bon. Il nous convainc de péché, de justice et de jugement, puis il s'envole comme une colombe et il part et il dit, comme la gloire de l'Éternel s'enlevait du temple, la Shekina, il dit, cette personne a délibérément, volontairement préféré s'installer dans le long terme dans un péché. Je l'ai prévenu en phase 1. J'ai doublé le buzzer en phase 2. Il passe en phase 3. 1, 2, 3, 4. OK, il a cassé l'alarme. Il a cassé l'alarme. Et d'ailleurs, quelqu'un va me dire, mais alors du coup, est-ce que je suis en phase 3? Est-ce que je suis en phase 3?
La question que j'allais te poser, comment on sait?
J'ai envie de te dire. Ça, c'est, pour moi, c'est une révélation, écoute ça. En phase 3, le Saint-Esprit n'est plus là. Donc, il n'y a plus de conviction de péché. Donc, quand tu es en phase 3...
Il n'y a plus d'alarme, en fait.
Il n'y a plus d'alarme, donc tu vis bien.
Tu es bien dedans, voilà.
Et c'est ça qui est dramatique. Et c'est ça qui est dramatique. Ouais. C'est qu'en phase 3, tu te sens bien. Et en fait, tu vois, tu dis, ah, c'est cool, les chrétiens, c'était pénible ma vie d'avant. Et là, t'es foutu.
Ouais.
Là, t'es foutu. Parce que là, c'est là, il dit, là, vous avez tellement méprisé la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui, si t'es en train de vivre une culpabilité, c'est que c'est pas trop tard.
Amen.
C'est que tu es en phase 2 prononcée, peut-être, mais t'es pas en phase 3. Tu n'es pas encore dans la zone de mort spirituelle. Il y a encore le Saint-Esprit. C'est pour ça que t'as regardé cette émission. C'est parce que le Saint-Esprit t'a dit... J'ai un truc à te dire.
Exact, exact. Ça me fait penser à, tu sais, on avait fait au tout début de Bonjour chez vous avec Jonathan Berceau une émission sur la perte du salut, ça fait très longtemps. En tout cas, moi je m'en souviens bien parce qu'il avait dit, oui, il avait dit quelque chose qui m'avait marqué. Il avait dit, on ne perd pas le salut comme on perd ses clés.
Exactement.
On abandonne la foi. Et des fois, le terme perdre le salut, d'ailleurs, c'est un terme qui n'a pas de sens. Parce que quand on perd quelque chose, c'est involontaire. On a oublié quelque chose, on l'a perdu, on l'a égaré, et c'était là, puis tout à coup, pouf, c'est plus là. Et en réalité, c'est cette action volontaire.
Délibérée et
complètement, brodice. Complètement. Et c'est important, je pense, d'être conscient de ça. C'est que, comme tu l'as dit, la grâce de Dieu est là, même quand on est rentré dans cette phase 2 dont tu parles. C'est là où, en fait, on a besoin le plus de la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu n'est pas là pour dire « c'est pas grave, t'inquiète pas, c'est pas grave ». La grâce de Dieu est là pour dire « tu peux encore faire demi-tour, change d'avis, attention, change de direction, reprends le bon chemin, reviens sur ce chemin étroit ». C'est ça qu'elle fait, la grâce de Dieu. Et je crois que ça a été aussi déformé, cette notion de grâce de Dieu, où on a dit ben, « ça couvre, c'est pas grave, parce que bon, ben, comme on a été sauvé un jour, on est sauvé toujours, puis tout est couvert ». Non, la grâce de Dieu, c'est cette voie qui te permet encore de rectifier et que tu peux revenir et retrouver ton statut de saint devant Dieu, même si tu es allé un petit peu de l'autre côté. Et il faut faire attention de pas mélanger tout.
On avait parlé dans une émission il n'y a pas si longtemps de combattre le bon combat de la foi et d'arriver jusqu'au bout.
Amen.
On avait étudié qu'est-ce que ça voulait dire un peu plus en profondeur. Maintenant, Yvan, pour des personnes qui regardent cette émission... Je te pose la question. Est-ce qu'il y en a qui sont comme ça, arrivés à ce stade-là?
Lequel? Phase
3.
OK.
Qui vont encore à l'église, selon toi, ils continuent d'aller à l'église, etc. Et est-ce que ces gens-là, qui aujourd'hui se reconnaissent plus dans ce que tu dis, parce que par habitude, ils sont allés à l'église, ils n'ont pas peut-être arrêté parce que c'est culturel, c'est peu importe c'est quoi, mais qui se reconnaissent dans ce que tu dis aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent faire à partir de là? Est-ce que c'est trop tard pour eux ou est-ce qu'ils peuvent revenir au Seigneur dans cette phase 3-là?
That's the question.
Pour moi, il y a heureusement moins de monde que tu penses en phase 3. Il y a des phases 2 très prononcées. Mais je dis honnêtement, sincèrement, et ça c'est vraiment une parole pour quelqu'un, mais si tu es en train de regarder cette émission, c'est que tu n'es pas en phase 3.
Tout à fait.
Parce que... je sais qu'il y a des paraboles qui peuvent faire peur, les vierges folles, les vierges sages, ils sont encore de l'huile, etc. Il parle là, à ce moment-là, Jésus parle au peuple d'Israël qui est sur le point de rater, il rate l'avenue du Messie, etc. Il n'est pas en train de parler à ses disciples, là, seulement. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Sinon, tout le monde est en insécurité permanente. Ça veut dire quoi, avoir de l'huile, etc. Non, non. Vous êtes en phase 2 prononcée. et le Saint-Esprit vous attire. Il essaye, en fait, c'est comme s'il y a deux personnes qui essayent de vous arracher. Mmh. Il y a le péché qui t'agrippe et qui dit, j'ai mis un pied ici, t'es mauvais. Je juste terminer avec quelque chose, une anecdote de T.D. Jakes qui, moi, m'a bouleversé. Il dit, ne confondez pas un petit cochon sale et un petit agneau sale. Mmh. Vous les mettez dans une mare de boue. Les chrétiens, vous, vous êtes tellement dans le jugement, vous allez dire, c'est rempli de cochonneries, tout ça, c'est tout sale. Le petit agneau, le porc, pff, pareil. Ça fait la même taille, il y a autant de boue dedans. Il dit, la différence, c'est que les êtres humains, ils passent devant la mare et ils disent, ça, c'est deux perdus. C'est deux cochons. Et le Saint-Esprit va et puis il écoute le bruit dans la mare. Mmh. Puis il écoute le bruit. Et le Saint-Esprit n'a pas peur du péché parce que le péché ne le salit pas.
Tout à fait.
Donc il approche très proche de la mare et il écoute. Et puis il entend un bruit, le bruit du petit agneau qui sait que son identité n'est pas un cochon. Mmh. Et alors que le petit cochon, lui, il se régale dans le péché. Le petit agneau, lui, il souffre d'y être. Mmh. Et si tu souffres d'y être, le Saint-Esprit est prêt. Il a envoyé Jésus pour descendre dans la mare, te porter sur les épaules, te nettoyer et te redonner ton statut de petit agneau. Mmh, mmh.
C'est super important. Vraiment, faut... le but, ce n'est pas que vous ressortiez de là, justement, découragé en vous disant c'est fichu pour moi. Et c'est hyper important ce que tu viens de dire et tu l'avais dit d'une autre façon tout à l'heure aussi. Mais de comprendre que si vous êtes encore interpellé par le sujet, si vous vous sentez encore mal, mais oui, c'est bon signe. Mais ne restez pas trop longtemps, parce que y a un moment donné où vous allez basculer de l'autre côté dans cette fameuse phase 3. Et je trouve que c'est très bien illustré, ces phases. Ça permet de bien savoir où on est. Si on est dans une phase 2, ne vous dites pas « Oh, ben c'est pas grave, je suis encore dans la phase 2, tout va bien. » Non, 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 non. Dites-vous « Ah, il y a urgence, il faut absolument que je revienne en arrière, absolument, et que je rectifie. » Et c'est une décision qui vous appartient. Nous, on ne peut pas le faire pour vous. On peut seulement dire attention, tout comme le Saint-Esprit ne peut pas le faire pour vous et peut seulement dire attention. Et ces douze voix que vous entendez à l'intérieur de vous, du Saint-Esprit qui crie, ne l'étouffez pas, s'il vous plaît. Mais vous pouvez, là, dès maintenant, décider de vous repentir. La repentance, c'est simple, c'est prendre une décision de faire demi-tour et faire réellement demi-tour. Vous voyez, on prend la décision, mais on le fait. C'est une action aussi. Vous renoncez à certaines choses. Et il y a des choses qu'il faut peut-être couper dans votre vie. Il y a des barrières qu'il faut mettre. Il y a peut-être des relations qu'il faut arrêter pour un temps ou pour toujours. Peu importe, vous savez exactement qu'est-ce qui est une occasion de chute pour vous. Et ce fameux verset qui vous dit d'arracher votre œil ou de couper votre main, eh bien, c'est peut-être de couper Internet chez vous pour quelque temps parce que c'est une occasion de chute pour vous.
Quitte la mare.
Quitte la mare, exactement. Et je pense que vous savez exactement ce que vous pouvez faire pour vous aider, pour vous rendre service, pour pouvoir prendre la bonne décision. Yvan, merci beaucoup. J'ai vraiment aimé la façon dont tu as apporté ce sujet. C'était très, très édifiant. Merci.
Et je voudrais dire à tout le monde, à ceux qui regardent, vous êtes toujours des agneaux, même si vous êtes sales. Mmh. Et votre grand frère, il est encore fier de vous. Ce n'est pas foutu.
Exact. Amen. Merci Yvan, merci beaucoup. Et demain, tu es encore avec nous. Ouais. On aura le plaisir. Alors, on aborde un sujet complètement différent demain, mais super intéressant aussi. On va voir quelle est la bonne technique d'évangélisation. La bonne technique.
Ah, wow.
On se demande. Demain,
il y aura du débat.
T'aimes ça. Rubrique Excellent. Famille pour toi. Demain, Yvan, que faut-il faire si mon ado ne veut plus aller à l'église?
Est-ce que je le force ou pas?
Il y a des parents qui soupirent après ce thème. Eh bien, nous avons entendu votre cri. On va tâcher d'y répondre. Alors, on se donne rendez-vous demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.